Il est 9h40, comme je suis heureuse de retrouver l'instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Après Têtu, disparu des kiosques, clap de fin pour le site d'info YAG. Y a-t-il une malédiction de la presse gay en France ? Titrait Libération. Les journaux de la communauté homo et transsexuelle sont des institutions chez les anglo-saxons. Alors au-delà de la crise économique qui frappe les publications et les médias indépendants, car il faut le rappeler, et les médias indépendants, c'est aussi ça le sujet, cela pousse à s'interroger sur ce qu'il reste chez nous des combats dont l'encre et le papier furent les fers de lance, mais surtout sur les attentes d'un lectorat dont l'ancrage idéologique s'est nettement transformé. Bonjour Christophe Martet.
Bonjour Camille Villers.
Militant au sein d'ACT UP, rédac chef de Têtu, vous le fûtes, puis cofondateur de YAG en 2008, parcours ce matin d'une génération, la vôtre. Avant cela, ça remue sur le marché des médias.
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Alors les discussions se poursuivent entre la direction d'iTélé et la rédaction, toujours en grève. Ça fera bientôt 3 semaines entières. Hier, l'état-major de Canal+ a pris la décision d'annuler les émissions de vente encadrée. Le deuxième débat de la droite et du centre, co-diffusé ce soir sur BFM et iTélé. Alors la rédaction d'iTélé s'était pourtant engagée à couvrir l'événement comme il se doit. Mais la question s'est posée hier de la lecture à l'antenne d'un message expliquant les motifs du mouvement fin de non-recevoir pour la direction. Aujourd'hui, le CSA se réunit en plénière pour juger si iTélé enfreint ou non le cadre et les obligations que lui impose sa convention de diffusion. Procédure accélérée pour le CSA, ça peut et ça doit normalement durer plusieurs mois, mais effroyablement et anormalement longue quand on sait ce que coûte une grève aux salariés et à l'économie d'une chaîne tout entière. Pendant ce temps, titre Le Figaro ce matin, comment la grève d'iTélé profite à sa rivale BFM TV, qui voit sa part d'audience passer de 2,1 à 2,3% en septembre. Alors, la sortie du livre de Davet et l'homme a jeté un pavé dans la mare. Pas un seul, je vous rassure, il y en a eu beaucoup. Mais cette fois, c'est un pavé dans la mare des droits télé du football français. François Hollande racontant son coup de fil à l'émir du Qatar, propriétaire de beIN Sports, afin qu'il s'entende avec Canal+. Et si un président de la République sous immunité faisait l'objet d'une plainte en justice ? Bonjour Étienne Moati.
Bonjour.
À l'équipe, vous avez révélé que la Ligue nationale de football entend porter plainte face à ce qu'on pourrait qualifier finalement de délit d'entrave.
Oui, en tout cas pour le moment, ils font plancher leur cabinet d'avocats, le célèbre cabinet Clifford Chance, savoir s'il y a une possibilité de saisir l'autorité de la concurrence, parce que on s'en doutait quand on a vu au printemps 2014 les réponses de Canal et de beIN à l'appel d'offres. Chacun avait répondu de son côté, donc sur les lots qui lui convenaient, sans qu'il y ait jamais de concurrence entre les deux. On s'était dit à l'époque, ça c'est quand même curieux, manifestement les gens se sont parlé. Quand on voit les déclarations du président de la République, on n'a plus beaucoup de doutes.
Est-ce qu'on peut rappeler le montant que cela représentait à l'époque comme gain ?
L'appel d'offres a obtenu le résultat suivant, 748,5 millions d'euros par an entre 2016 et 2020 pour la Ligue. Et sur ce montant, Canal paye la plus grande part, 540 millions d'euros pour avoir les 3 meilleurs matchs de chaque journée. Et puis beIN, le reste des rencontres. Donc évidemment, tout le monde sait bien qu'il y a eu des discussions donc entre les deux opérateurs. D'ailleurs, ces discussions, elles ont fini par essayer d'aboutir à une entente claire et nette entre les deux, avec un rapprochement des deux antennes qui a été refusé par l'autorité de la concurrence. Et on voit bien avec le livre de Davet et de l'Homme qu'évidemment il y a eu aussi une intervention politique.
Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une intervention politique dans ce type de dossier ?
C'est le grand fantasme permanent depuis longtemps. Moi, je m'occupe un peu de ces affaires-là depuis une petite vingtaine d'années. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit les enjeux sont tellement importants que forcément, il y a des coups de fil du politique pour essayer de régler en amont ces dossiers-là. Cette fois-ci, le doute n'est plus permis. Et puis, je dirais pour la Ligue, il y a un autre problème. C'est-à-dire que Canal+ et beIN ne sont pas non plus ses adversaires. Ce sont ses clients. Ce sont ces chaînes-là qui font vivre le football français. Donc, il est compliqué aussi de se fâcher avec eux par le biais d'un procès, mais ça peut aussi être le moyen de faire pression un petit peu sur ces deux chaînes en leur disant bah, écoutez, il va y avoir prochainement une nouvelle consultation et vous pouvez être sous le coup d'une surveillance de l'autorité de la concurrence.
Alors, ce qui se joue en fait depuis aujourd'hui presque une quinzaine d'années, c'est la survie de Canal+ dans cette mise aux enchères des droits du football français.
Mais aujourd'hui, il y a quasiment les deux soldats à sauver, Canal+ et beIN Sport, parce que Canal+ perd énormément d'abonnés depuis plusieurs années, mais beIN Sport, qui a investi massivement sur le marché des droits, ils perdent autour de 250 à 300 millions d'euros par an. Donc les deux ont un intérêt à avoir un rapprochement, à avoir des ententes, à faire cesser un petit peu la bulle spéculative des droits.
On attend aussi la nomination d'un nouveau président à la tête de la Ligue nationale de football. Et vous avez révélé hier soir sur le site l'équipe.fr que ce ne serait pas Michel Denisot, dont le nom courait pourtant avec insistance.
Ben oui, il a un profil finalement qui est assez idéal pour devenir président de la Ligue parce que, évidemment, il y a son grand parcours à la télévision, en direction des sports de Canal+, évidemment, mais aussi il a été président de club, le Paris Saint-Germain, président d'un petit club, Châteauroux, donc qui est dans les divisions inférieures, voilà. Donc il était un peu le profil idéal.
En tout cas, c'eût été une nomination pile à la convergence des intérêts du groupe Canal+, des intérêts de la télévision et du marché de la télévision, et de ceux des intérêts sportifs du football.
Oui, a priori, Michel Denisot n'est plus lié avec Canal+. Depuis le 1er juillet dernier, il n'a plus de contrat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est en contact aussi avec d'autres chaînes. Je pense qu'il voyait en lui, non pas celui qui est capable d'amadouer Canal+, mais plutôt quelqu'un qui a une vraie stature. Donc, si vous avez aujourd'hui une idée pour être président de la Ligue, et si vous en avez envie vous-même, Sonia, bah, vous pouvez écrire à la Ligue.
Merci beaucoup, Étienne Moati. À très bientôt et bonne journée.
L'instant M, avec Sonia De Villers.
Voilà, Christophe Martel, je ne sais pas si ça vous intéresse, la présidence de la Ligue nationale de football. En
pas
tout cas,
forcément,
manifestement,
non.
Il y a un poste à prendre si Michel Denisot n'y va pas. Alors, Christophe Martel, vous êtes d'une génération très particulière. Vous êtes d'une génération née médiatiquement dans la lutte. Le pays de merde, c'était vous.
Il y a un avion voilà. Pour le Zaïre mardi. Si on n'est pas lundi avec elle à la préfecture, elle peut se faire expulser mardi. Elle a un gamin qui est malade, qui vit actuellement malade dans un hôpital français. C'est quoi ce pays de merde?
Oui, non, d'abord, il ne faut pas dire des choses comme ça. Hein. C'est pas bien.
Merci. Moi, je m'en vais. Vous êtes un assassin.
Voilà, Christophe Martel, depuis cofondateur de YAG, ce site d'info, donc aujourd'hui condamné à la fermeture. Mais avant YAG, vous avez été journaliste et vous avez été militant. Et dans votre parcours, vos années ACT UP et vos années de journaliste sont totalement indissociables, Christophe Martel.
Oui, tout à fait. Alors j'ai commencé ma carrière de journaliste en 83, donc France 3, FR 3 à l'époque, puis France 2 au service économique. Mais c'est vrai qu'en 90, je suis parti à New York parce que, bon voilà, la plupart de mes amis étaient morts, j'étais moi-même séropo, donc je savais qu'il ne me restait pas forcément longtemps à vivre. Donc je me suis dit, je pars à New York et je milite à ACT UP à l'époque, donc la principale association de lutte contre le sida activiste. Et en rentrant en France, voilà, j'ai essayé de concilier les deux, mais c'est pas évident quand vous êtes vraiment pris dans ce combat pour la vie finalement de pouvoir travailler. Puis à un moment j'étais malheureusement trop malade pour pouvoir travailler, mais voilà, j'ai écrit un livre sur le sida et puis effectivement quand les choses se sont améliorées avec les thérapies à partir de 96, j'ai pu retravailler et notamment j'ai monté tout un dispositif d'information autour des traitements à ACT UP parce qu'on sentait que les médecins étaient en train de reprendre le pouvoir sur les malades. Donc on s'est dit non, faut pas qu'on perde non plus notre degré d'expertise. Et puis 99, donc je rentre effectivement à Tétu, où là j'ai pu à la fois continuer à m'occuper des questions liées à la santé et puis
ce qui pose la question, Christophe Martel, vraiment de ce que c'est qu'un journalisme engagé et engagé jusque dans votre vie au quotidien, engagé au sein de votre communauté, parce que c'est une façon assez particulière de faire du journalisme et de le revendiquer.
C'est vrai que parfois on nous dit vous êtes un journal militant ou vous êtes militant vous-même. Alors moi j'ai rien contre le mot militant, mais non, effectivement, comme vous le dites, c'est l'engagement. Mm-hmm. C'est-à-dire que on va traiter de certains sujets, on ne va pas traiter d'autres sujets, on va pas interviewer des personnes qui seront très hostiles, par exemple, à l'égalité des droits. Pour nous, effectivement, la Manif pour tous est un mouvement qui prône l'homophobie. À partir du moment où vous êtes contre le mariage aujourd'hui, c'est comme être contre le droit des femmes en 46. Je veux dire, ça n'avait pas de sens, ça n'avait aucun fondement. C'était juste de la misogynie. Aujourd'hui, c'est de l'homophobie que de penser que on peut revenir sur le mariage et qu'on peut empêcher les gens de se marier.
On a retrouvé quelques sons en les réécoutant aujourd'hui. C'était simplement des sons d'actu. Hein. C'était au micro de C'est dans l'air, une émission de France 5. On en voyait beaucoup à l'époque, hein, des sujets sur les manifestants de la Manif pour tous. En les réécoutant aujourd'hui, on a même du mal à y croire.
Mais attendez, les sodomites, non, ça va, c'est rigolo, mais deux minutes, faut quand même pas dépasser les bornes.
Un mariage, vous demanderiez à des chiens ou des chats, ils vous répondraient que c'est un mâle et une femelle.
On a toujours vu un homme, une femme, c'est la nature. L'inverse a fonctionné, je peux pas imaginer un garçon entre deux garçons.
Et... C'est terrible, hein, mais deux taureaux ensemble, ça fait pas un veau.
Moi j'en connais, ils sont malheureux, ils sont tout complètement... Mais comme tout malade, enfin, ça leur donne, je sais pas, la syphilis ou j'en sais rien. Enfin, ils sont malades, ces gens-là. De la tête et de partout, quoi.
Voilà, libération d'une parole très violemment homophobe à ce moment-là. On était en octobre 2000. C'est très récent.
C'est très récent
à ce moment-là. Et pourtant, le paysage a changé. Vous en convenez. C'est-à-dire que aujourd'hui, les sujets qui concernent la vie, le sort, les droits des homosexuels, des transsexuels, aujourd'hui, ils ont été repris par tout un tas de presse d'actualité. Ça peut être BuzzFeed, ça peut être Slate, ça peut être Vice, ça peut être Gratia, un journal qu'on aime bien ici à l'Instant M et qui développe pas mal de sujets. Ça peut être les Inroc d'une certaine manière. Est-ce que pour vous, c'est une victoire ou est-ce que pour vous, au contraire, ça a creusé votre tombe?
Non, alors ça n'a pas creusé notre tombe. Ce qui a creusé notre tombe...
Quand même, si.
Enfin, en tout cas, c'est clair que c'est très bien que la presse généraliste s'intéresse à ces sujets et les traite parfois de façon tout à fait correcte. Mais on voit aussi qu'elle peut se permettre de publier des tribunes totalement homophobes, y compris même dans le monde, où ils ont carrément accepté à l'époque quand même une pub de la Manif pour tous, et où ils avaient des psychologues, des sociologues, des anthropologues, etc., qui expliquaient que ça allait être la fin de la civilisation, le mariage pour tous.
Dans le monde, il y a des pages débat et opinion, donc il y a des pour et il y a des contre, c'est normal quand même, parce que c'est normal que ce soit un débat démocratique quand même.
Oui, mais enfin, un débat démocratique, quand on dit que c'est la fin de la civilisation, je ne sais pas où est le débat.
Alors, par ailleurs, quand vous parlez des journaux, c'est que ce matin, on vous a accueilli à France Inter, et puis on vous a glissé le point. Bah oui, mais en même temps, on avait envie de vous faire réagir, parce que nous, on est tombés des nues. On a lu la chronique de Patrick Besson, qui est donc le billet qui ouvre le point chaque semaine, qu'on aime beaucoup d'habitude. Mon premier mariage gay. Alors, c'est supposé être très très drôle. Et en même temps, ça enchaîne les clichés comme des perles. Et ça devient de moins en moins drôle au fur et à mesure qu'on lit. Hein, parce qu'évidemment, ils confondent les mariés, Sébastien et Laurent. Hein, parce que forcément, comme ces deux mecs, ils sont forcément pareils. Et puis ensuite, il dit à sa voisine blonde qui a un piercing dans le nez et à l'oreille. Parce que là, forcément, elle est lesbienne. Hein, l'année dernière, c'était votre tour. Alors qu'elle était gay et qu'elle avait été inséminée artificiellement. Formidable. Ouais.
Ouais, vous aussi, ça vous a fait bondir. Oui, c'est juste horrible, quoi. Voilà, c'est typiquement ce genre de choses on nous dit après, ah, vous manquez d'humour, vous n'êtes pas. Mais non, faire des blagues sexistes, faire des blagues homophobes, des blagues transphobes, de la même façon que des blagues racistes, ce n'est pas de l'humour. C'est juste insultant pour les personnes. L'homophobie, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc, à partir du moment où vous moquez des gens, mais pour ce qu'ils sont. Pour leur travers, pour ce qu'ils font, etc., on peut toujours se moquer des gens. Mais pour ce qu'ils sont, leur genre, leur sexualité, etc., ce n'est pas tolérable. Et si nous, on le traite sur IAG, on le traitait, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se déclarent choqués par ce type de propos, par ce type de, entre guillemets, blagues.
D'où l'utilité d'avoir encore des médias communautaires, des médias spécifiques.
Parce qu'on ne traite pas de la même façon les sujets, parce qu'on offre des tribunes que les autres journaux n'offrent pas forcément, parce qu'on est plus pointu. Enfin, par exemple, les agences de presse, je ne vais pas citer l'AFP, mais quand même, sur les sujets de l'homosexualité, n'est pas très bonne, comme elle n'est pas très bonne sur le sujet du sida. Quand vous connaissez bien un sujet, vous vous rendez compte que ce n'est pas suffisamment précis. Alors, et pareil, on utilise le mariage gay, alors que c'est le terme mariage gay, qui est un raccourci qui ne nous convient pas du tout. Il n'y a pas le mariage gay, il y a un mariage, et il y a des couples qui se marient, et certains sont de même sexe.
D'ailleurs, je peux conseiller à tous mes confrères, puisque moi je l'ai découvert hier soir, donc il y a une association des journalistes...
Absolument,
voilà.
LGBT. LGBT.
LGBT, qui publie un petit guide.
Un vadémécum, ouais,
voilà,
tout à fait.
Un petit guide du vocabulaire à utiliser voilà. ou à ne pas utiliser. Et moi-même, voilà. je me suis fait prendre la main dans le sac de plein de mots que j'utilise sans...
Voilà. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans le politiquement correct ou je ne sais quelle police de la pensée. Non, il s'agit juste de penser que dans votre lectorat, dans votre audience, il y a des gens qui sont gays, lesbiennes, bi et trans et qui ont besoin qu'on les respecte dans leur identité, dans leur orientation sexuelle.
Alors, justement, parlons-en. Justement, vous êtes né dans cette lutte vraiment brûlante, on peut le dire, contre le sida, généralisation des trithérapies en 97-98. Et quelque part, le combat est quasi gagné. En tout cas, c'est pas une question. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'est la maladie, on sait comment on l'attrape, on sait comment on la freine, on sait comment accéder aux soins. Alors que la question de l'épidémie, elle concernait au moins toute la communauté gay et bien au-delà. Aujourd'hui, le mariage, c'est fait. Hein, pas le mariage gay, le mariage tout court, c'est fait. Il reste les questions de la GPA, de la PMA, il reste les questions des droits des trans. Et là, en même temps, la question du droit des trans, même si c'est une question très intéressante, elle concerne très peu de monde.
Mais même si elle ne concernait, Sonia, que trois personnes, ce serait une question importante. Bon, sur le sida, je vous rappelle quand même sur le sida qu'il y a aujourd'hui 7000 contaminations et que la moitié, c'est chez les gays. Donc il y a une vraie épidémie toujours très active. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut de veille sanitaire. C'est le seul groupe dans lequel l'épidémie ne baisse pas.
Et d'ailleurs, j'ai lu un de vos papiers très intéressant, c'est-à-dire que shocking au ministère de la Santé récemment, parce que c'était un couple gay masculin qui s'enlaçait sur une affiche de
Absolument.
Prévention.
Qui était censé être montré dans les abribus et on a appris qu'ils allaient couper cette partie de la campagne, ils allaient rester sur les médias communautaires. Voilà, on voit, et c'était le lendemain en plus de la manif pour tous, bon, qui a fait un bide, mais c'était quand même le lendemain. Et du coup, on a tout de suite fait un papier, ça n'a pas du tout plu au ministère, je peux vous dire, qui nous a appelés. C'est là où on voit aussi l'utilité, c'est-à-dire qu'on a les contacts, on a certaines connexions, et ils savent aussi que la communauté LGBT
est capable de se mobiliser.
Réagit très vite. Donc, elle s'est d'ailleurs mobilisée dès le lendemain.
Et puis, il y a cette question de la mémoire aussi, que vous ressortez à ce moment-là. C'est-à-dire, vous ressortez le long combat
Bien
contre
sûr.
La censure hein, dans
Mais
ces discours de prévention et de communication
Exactement. On
en
a
matière
toujours,
de santé
voilà,
publique.
On a toujours mis les gays de côté. Ça a toujours été très compliqué. Moi, j'étais dans le bureau d'Ouste Blasi en 94, on l'entendait tout à l'heure,
ouais.
qui me dit, on ne peut pas faire du prosélytisme. On ne peut pas faire de campagne parce qu'on ne peut pas faire du prosélytisme. Je lui dis, attendez, on n'est pas en train de transformer les gens, de dire, parce qu'on va parler d'homosexualité, on va transformer les gens. Moi, j'adorerais que Brad Pitt devienne homo, mais ça ne marche pas comme ça.
Enfin, c'est... Vous en avez rêvé, Christophe
Non, pas vraiment, mais bon, je cite cet exemple comme d'autres.
Mais moi, j'ai rêvé de Brad Pitt et je l'assume très bien. Comment a évolué votre lectorat, Christophe Martel? C'est une vraie question. Il y a eu ce livre, évidemment, de Didier Lestrade, « Pourquoi les gays sont passés à droite, au seuil, en 2012 ». Il y a eu aussi cette enquête passionnante, enquête électorale française « Comment comprendre 2017 », publiée par le CVPOF au mois de février dernier. C'est sans appel. Les couples homosexuels mariés ne s'estiment pas redevables à la gauche, ils votent à droite, voire massivement à l'extrême droite. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai décalage entre les valeurs progressistes que vous prenez et puis la réalité d'un lectorat qui s'est droitisé comme tout le reste du pays, Christophe Martel?
Alors, je ne sais pas si... Oui, le paysage, effectivement, n'est pas très, très glorieux, mais les gays, encore une fois, les gays, les lesbiennes, les bi, les trans, sont des citoyens à part entière et vivent les mêmes... Les mêmes problèmes de sécurité, de chômage...
De pouvoir d'achat, d'angoisse, etc. Et donc, ils ne veulent pas des migrants comme les autres.
Voilà. Bon, alors après, je pense quand même qu'il y a une frange... ils votent massivement. En tout cas, non. Je pense qu'il y a quand même... Effectivement, il y a pas mal de gens, je crois que c'était 20% ou plus, qui votaient Front National, mais ça en laisse quand même pas mal à côté.
Oui, mais est-ce que ça ne dit pas un décalage
bien sûr.
Entre votre ligne éditoriale à vous
Ah oui,
et
mais
puis
on va,
la réalité
Oui, mais on ne va surtout pas aller dans cette ligne éditoriale-là. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on défend certaines valeurs, il ne s'agit même pas de parler d'être gay ou... Oui, ce sont des valeurs d'humanité, des valeurs d'égalité, de fraternité. Donc, tout ce qui concerne toutes ces questions, elles sont, j'ai envie de dire, généralistes, quoi.
Merci beaucoup, Christophe Martel.
Merci
la
à
fin
vous.
De YAG, c'était dans l'instant M.